Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer deux ouvrages que l'on doit à une physicienne qui s'est transformée en leader du monde, du tiers-monde. Il s'agit de Vandana Shiva. Alors physicienne, elle l'est puisqu'elle a donc fait des études de physique, obtenu de nombreux diplômes. Et puis, à un moment donné, cette personne s'est rendue compte que le monde courait à sa perte, et en Inde, c'est particulièrement évident. Elle s'est donc mobilisée pour défendre un certain nombre d'idées et notamment pour lutter contre Monsanto, Bayer, enfin les grands pollueurs de notre planète. Il se trouve qu'elle est venue en France il y a quelques semaines et que nous avons eu l'occasion, l'opportunité de la rencontrer avec son traducteur et complice Lionel Astruc. Alors nous reviendrons sur les deux livres dont je voulais vous parler et dont ils vont évoquer dans l'interview. Et ensuite, nous évoquerons quelques petites nouvelles, notamment nous évoquerons mai 68, comment ne pas le faire en ce mois de mai, et puis quelques manifestations qui ont lieu dans une ville très proche de Montpellier, à Frontignan. Lionel Astruc, vous êtes l'auteur donc d'un livre avec Vandana Shiva. Est-ce que, en quelques mots, vous pourriez nous dire ce qu'elle représente et d'où elle vient ?
Vandana Shiva, en fait, c'est la bête noire des multinationales et tout particulièrement des grands semenciers. Monsanto en tête de cela. Mmh. Et elle mène un combat qui dure depuis 1987. En fait, pour moi, l'histoire qui la définit le mieux, c'est ce qui s'est passé en 87 à Beaugève, en Haute-Savoie, donc en France. Elle a assisté à un petit congrès sur les biotechnologies où il y avait une trentaine de personnes qui étaient réunies et où en fait se tramait la stratégie de l'industrie agrochimique pour prendre le monopole sur les graines et puis également pour faire breveter le vivant. Et elle, qui est une chercheuse, une physicienne, et qui est quelqu'un de très bien articulé, en fait, a compris tout de suite de quoi il s'agissait, à un moment, en fait, où personne d'autre, réalité, n'avait encore compris l'ampleur du danger qui nous menaçait. Et elle, donc, elle a assisté à ces conversations où les interlocuteurs disaient, voilà comment on va s'y prendre. Et en fait, ils étaient en train de tracer tout ce qui s'est passé depuis pour petit à petit réduire le nombre d'entreprises et mettre des péages entre les paysans et les graines pour les faire payer et faire une économie de rente. À partir de là, imaginez, vous êtes tout seul, vous savez un danger qui menace le monde. C'est une vraie mission qui lui est tombée sur les épaules. Et depuis, elle est allée chercher des graines un peu partout. Elle a créé ce réseau de 120 banques de graines à travers l'Inde. Et puis surtout, elle est arrivée à sensibiliser la planète entière quasiment à ce problème. Donc elle a dédié toutes ces années depuis 87 à ce combat. Et petit à petit, son combat est monté en puissance, sachant que en 87, elle est quasiment partie toute seule avec son sari et son bâton pèlerin pour chercher les graines anciennes chez les paysans en Inde et pour les protéger dans ces banques de graines. Donc on a fait beaucoup de chemin depuis.
Alors, donc là, on a une petite idée de à qui on a affaire. Est-ce que, il y a une question que je me pose, c'est comment avec une formation précisément, vous l'évoquiez, de physicienne, tout à coup, on passe à la dimension agricole ?
Vandana, you're a physicist. Your trainings, your PhD is about physics. How did you get to agricultural and seeds questions?
Even while I was doing my PhD in the foundations of quantum theory, I got involved in a movement to protect the Himalayan forest. It was called CHIPKO and it means to hug.
En fait, lorsque je faisais mes études de physique, j'étais déjà impliqué dans un mouvement de défense des arbres qui s'appelle CHIPKO.
In 1984, there were two terrible tragedies in India. Violence erupted in Punjab, which is where the chemical farming was first introduced, and a pesticide plant leaked in Bhopal, killing 7,000 people.
En 1984, il y a eu deux tragédies terribles en Inde. D'abord au Punjab, la révolution verte et le conflit, et puis également à Bhopal, l'explosion de cette usine qui a fait de très nombreuses victimes, une usine de produits chimiques.
Yes, I'm trained in physics. I was doing a UN, United Nations study. And I applied my physics to agriculture to realize everything said in industrial farming is a manipulation of figures.
Effectivement, j'ai fait des études de physique. Plus tard, j'ai travaillé pour les Nations Unies. Mais ensuite, j'ai mis cette formation au service de l'agriculture pour démontrer que tout ce qui était enseigné dans le milieu de l'agro-industrie servait à nous piéger.
Industrial agriculture is really a scientific fraud on the world.
L'agriculture intensive est en réalité une vraie fraude scientifique à l'échelle du monde.
Because it took the leftovers of war and made the chemical weapons companies the drivers of our farming system.
Cette industrie a récupéré les déchets de la guerre, c'est-à-dire les produits chimiques qui avaient été utilisés pendant ces conflits, comme l'agent orange par exemple, et en a fait un business dans l'agriculture.
I have seen lands get desertified, rivers disappear, farmers in debt, dying now of suicides, and worst, farmers dying of cancer. There's a cancer train that leaves Punjab.
Et j'ai vu les terres se désertifier, les rivières s'assécher, et les paysans s'appauvrir et devenir malades. Et j'ai vu notamment une vague de cancer dans certaines régions comme le Punjab.
And then I was invited to a meeting in France, in the Alps, on the new biotechnologies. That's where the companies, the old chemical companies, the warfare companies said, we will now use genetic engineering to claim we have invented seed. We'll take patents on seed. We'll make this global through the intellectual property agreements of the new trade treaties, which became World Trade Organization. That's the day I said, another scientific fraud. They pretend they're inventors of seed. I will save seeds with a lot of love. I will defend farmers' rights. I will work with governments and parliament to ensure that patents on seed are not allowed. And today, 30 years later, that's the work I'm doing.
Donc, en résumé, la réponse de Vandana, c'est que tout a changé, c'est ce que je racontais tout à l'heure, le jour où elle est allée en Haute-Savoie dans ce congrès et où elle a effectivement intercepté, écouté le discours de ces vieilles entreprises semencières qui mettaient au point leur stratégie pour, en fait, prendre... s'approprier le vivant, faire de la géo-ingénierie et faire en sorte ensuite de faire payer les fermiers. À partir de ce moment-là, je me suis dit, moi, je ne veux plus appartenir à cette science frauduleuse. Je veux défendre les graines.
And I'm very happy to be here in Montpellier because here the peasants and Joseph Bové said no to the GMO rice and also had said no to the McDonald's.
Et donc, je suis très heureuse d'être ici à Montpellier parce que pour moi, ici, c'est José Bové qui a eu le courage de dire non aux OGM et de dire non à McDonald's.
Vous vouliez ajouter ?
Juste une réaction parce que José Bové, il va faire la une du magazine là, qui sort d'ici une dizaine de jours. Voilà, donc petit clin d'œil, voilà, c'est la suite avec José dans quelques semaines.
J'évoquais tout à l'heure le court interview dans le magazine où Vandana Shiva évoque ce qui se passe en Inde et le fait que notamment tout ce qui est agricole ne sert pas essentiellement à nourrir les gens. Comment se fait-il que des États acceptent ça, et notamment l'État indien ?
How is it that government in India, for example, accepts that the agriculture is not only turned on feeding people, and that the agriculture is sometimes used for other use as but people are hungry?
I can report to you that when I did my book on the violence of the Green Revolution, I realized that India did not choose chemical farming. Our prime minister of that time had said no. We needed to import a little more wheat because of drought, and the Americans said we'll only send more wheat if you adopt chemical farming.
En fait, quand j'ai fait mon enquête sur la révolution verte au Punjab, j'ai compris une chose, c'est qu'en fait, ce n'était pas un choix de la population. C'est qu'en réalité, nous avons dû importer du blé des États-Unis et on nous disait, écoutez, on peut le faire, mais uniquement si vous pratiquez l'agriculture intensive.
And the United States government, the World Bank, the foundations like Rockefeller Foundation, all joined hand to force chemical farming on India.
Et toutes les grandes organisations, comme par exemple la fondation Rockefeller, le gouvernement américain, etc., se sont unies pour défendre l'agriculture intensive.
That same Rockefeller Foundation is now working with Bill Gates to force the Green Revolution that has destroyed India on Africa, called AGRA.
De nos jours, en fait, cette même fondation Rockefeller, elle est en train de forcer, avec Bill Gates, de forcer l'Afrique à traverser cette même période de révolution verte, telle que celle qu'on a connue en Inde, mais cette fois-ci en Afrique. Et ils ont appelé ça AGRA.
In 98, Monsanto introduced BT cotton illegally in India without any clearance through any law. I still have a case going in the Supreme Court of India.
En 1998, Monsanto a introduit le coton OGM en Inde d'une manière illégale et je suis aujourd'hui encore en train de me battre contre ça.
Our laws don't allow patents on seed. They still illegally collect royalties and 310,000 Indian farmers have committed suicide because of debt.
Collecter en fait des rentes sur la vente des graines, c'est interdit et pourtant Monsanto le fait et cette politique pousse les paysans au suicide et ils se suicident en grand nombre dans les régions cotonnières en Inde.
And now when Bayer and Monsanto are merging and our government rejected the merger, they're appealing every line in the application is a lie, a fraud.
Et aujourd'hui, avec la fusion de Monsanto et Bayer, le gouvernement rejette en fait cette stratégie et chaque ligne des formulaires du regroupement de ces deux structures est un mensonge en réalité.
Even in the case of Europe, look at glyphosate and Roundup. It should have not been approved for renewal. It was a interim agriculture minister of Germany, who went against the Parliament's instructions and said yes in the European Union.
En Europe, c'est pareil pour le glyphosate et c'est pareil pour le glyphosate. C'est un ministre d'intérim qui a permis de. J'ai perdu le fil.
That basically. Monsanto influenced the vote.
Monsanto a influencé le vote pour...
Puisque la période de glyphosate a été retardée effectivement non interdite.
With their influence, governments don't behave as independent public governments working for public welfare. They work through corruption, the few places they do. So the poison cartel, corruption, genocide, ecocide go hand in hand.
Les gouvernements, malheureusement, ne travaillent pas toujours pour l'intérêt général. Ils subissent la corruption et du coup, cela mène avec ce cartel mène finalement à un écocide.
That is why we have to make a transition to poison-free food and farming. That's in our hands. They can't corrupt our decisions.
C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse une transition vers une alimentation sans pesticides. Et ce destin-là, il est entre nos mains et nous, on ne peut pas être corrompus.
Alors, si j'ai bien lu, ce qu'on décrit là est le résultat d'un mode de pensée, d'un programme parfaitement élaboré, systématique. Quel mode d'opposition, de résistance on peut opposer à ce système?
How can we as citizens fight against this system that you've just described?
Well, I just mentioned how we can fight. We can save our seeds so they're not in their hands and they don't force GMO seeds.
La première chose, c'est qu'on peut préserver les graines anciennes pour ne pas qu'ils s'en emparent et faire en sorte que ce soit des graines libres.
We can rejuvenate our local organic food systems so that we are free, we are healthy and the planet is rejuvenated.
Nous pouvons restaurer les modes d'approvisionnement alimentaire locaux pour faire en sorte que nous gardions notre liberté et puis également pour qu'on soit en bonne santé, la planète également.
And of course they will try to do all kinds of things to say you can't save seeds, you have to eat McDonald's.
Bien sûr, ils vont faire tout un tas de choses pour faire en sorte qu'on ne puisse pas protéger les graines et puis qu'on mange des fast-foods, du McDonald's.
That is where democracy has the power and determination to say no becomes active. Here in this region, the farmers have done it. In our country, we've done it. That is why we still have freedom to complete our walk and journey for freedom for this century from the poison cartel. We must do the positive work while we do a new resistance, a word that was so beautifully invented in France during the wars.
C'est là où la démocratie est utile, parce que cette démocratie, elle a permis ici dans cette région de lutter, à travers les luttes qu'on a déjà évoquées. Nous aussi, chez nous en Inde, nous luttons, et je crois que c'est la bonne direction à prendre, et c'est aussi un rappel de l'histoire française, et notamment de la révolution, de l'insoumission.
After all, France had a revolution and gave the word. That gave the world freedom, equality, fraternity. It's time for a new freedom with a new solidarity with sustainability.
La France a donné au monde la révolution et donc la liberté, l'égalité, la fraternité. Aujourd'hui, il est temps de redécouvrir cette liberté, cette égalité, mais également une nouvelle solidarité.
And that is the subject of the book that has just been published by Aksud, and it's a dialogue between Nicolopoulos and me, and it is being coordinated by Lionel.
Voilà, donc c'est le sujet de notre livre. Le livre que nous avons fait, Vandana Shiva, Nicolas Hulot, Lionel Astruc, et qui traite justement des thèmes que nous venons d'évoquer.
Merci beaucoup.
Thank you.
Voilà, merci à Vandana Shiva et à Lionel Astruc pour cette interview qu'ils nous ont donc accordée lors de leur venue à Montpellier. Je rappelle les deux livres dont il est question. D'une part, le livre réalisé, qui est un entretien croisé entre Vandana Shiva, Nicolas Hulot et Lionel Astruc, qui est sorti aux éditions Actes Sud. Et puis un livre que, pour ma part, je trouve plus intéressant, toujours de Vandana Shiva, avec la complicité de Lionel Astruc. C'est donc sont des entretiens. Et qui s'intitule Vandana Shiva pour une désobéissance créatrice. Et c'est paru chez Le Domaine du Possible aux éditions Actes Sud, toujours. Voilà, ces deux livres que vous pouvez trouver facilement dans toutes les bonnes librairies. Et puis, si vous voulez survoler un peu plus la question, mais c'est dommage, vous pourrez retrouver l'interview qu'avait donnée Vandana Shiva au magazine Sans Transition et dont nous avions, je pense, parlé dans le passé. Voilà. Alors on enchaîne avec quelques nouvelles littéraires, enfin littéraires. Le dernier numéro du magazine littéraire, évidemment le numéro de mai de cette année, évoque bien entendu mai 68. C'était bien difficile de rater l'occasion. Et puis les vitrines de librairie se couvrent de livres consacrés à mai 68, souvent faits par des gens qui ne l'ont pas vécu, mais bon. L'histoire est ainsi faite. Alors, dans notre dernier numéro du magazine, du nouveau magazine littéraire, puisque tel est son titre actuel, eh bien, mai 68 était donc en couverture. Et le magazine a fait réaliser un sondage qui dément tous les clichés que l'on peut avoir. On pensait que mai 68 était, pour les Français, voué à l'enfer des idées épouvantables. Eh bien non, pas du tout. Alors, pendant quelques années, effectivement, il y a eu, notamment sous l'influence de d'un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, il y a eu une sorte de bataille contre certaines idées, soi-disant, de mai 68. Eh bien, les choses se sont inversées. Et ce sondage fait apparaître que 79% des Français défendent l'héritage de mai 68. Voilà, donc de quoi surprendre et de quoi nourrir évidemment l'édition consacrée à cette commémoration, puisque c'est le mot qu'avait employé, je crois, un nouveau président de la République, comme quoi les présidents ont encore une quelconque influence, au moins sur les médias. Ce magazine littéraire, le dernier numéro, donc de mai, est consacré également à Daniel Pennac. Il y a beaucoup d'informations sur cet écrivain qui vient de faire paraître un ouvrage chez Gallimard intitulé « Mon frère ». Alors, beaucoup de questions sur la fraternité au sens le plus étroit, le plus intime et au sens le plus général. Et puis ensuite, le numéro évoque également la question des données personnelles. Vous savez que depuis l'espèce de scandale de Facebook, on sait que nos données personnelles sont diffusées largement et que ça sert à informer un certain nombre de démarches commerciales. Et le titre de l'article que lui consacre le magazine littéraire, c'est donc « Ne donnez pas vos données personnelles ». Alors toujours mai 68, vous voyez, il y a de quoi faire. Eh bien, la maison Pierre-Vive, que l'on doit au département de l'Hérault, consacre elle aussi son mois de mai à mai 68. Mais alors là, avec une actualité locale, puisque une exposition présente un certain nombre d'images, et elle s'intitule « L'Hérault en mai 68 ». Donc 50 ans après, on essaie de voir en quoi mai 68 a pu donner un certain nombre d'images dans notre ville, voire dans notre département. Et donc au programme, une exposition d'affiches de la contestation qui a été réalisée par les archives départementales. Et il y aura même un petit atelier pour s'initier à la sérigraphie, puisque vous savez que toutes les affiches qui ont été faites en mai 68 étaient des affiches en sérigraphie. Technique un petit peu abandonnée aujourd'hui à cause de la photocopie. Il y aura également une table ronde donnant la parole à des observateurs, acteurs aussi du mouvement étudiant, qui reviendront sur l'esprit des lieux tout en s'interrogeant sur le devenir de la brèche sociale ouverte dans la France qui s'ennuyait, soi-disant. Une conférence focalisée sur l'originalité de la contestation dans un bassin minier soumis depuis des décennies à l'influence des politiques ouvrières. Voilà, il y aura donc deux conférences qui parleront sous deux aspects différents de mai 68. Alors c'est jusqu'au 30 juin de cette année, de 2018, donc à Pierre-Vive, la maison de la mémoire et des idées que l'on doit au département de l'Hérault. Voilà. Alors, puisqu'on parle d'exposition et de muséographie, je ne sais pas si vous savez, mais à Frontignan vient de s'ouvrir un nouveau musée. Alors, c'est un petit musée, c'est un musée municipal, mais qui quand même a un fonds qui est assez intéressant, fait de donations, de collections, etc. Et ce musée va présenter une exposition sur les migrations. Alors, une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que Frontignan-Lapeyrade, puisque la commune, c'est un regroupement de communes et porte ce nom-là, Frontignan-Lapeyrade est donc, pour l'histoire des migrations dans notre région, joue un rôle très important. À Frontignan, a eu lieu, c'était un point un peu focal, du regroupement de populations migrantes venant de la Méditerranée. Alors, par série de jumelages, Frontignan est devenu donc une sorte d'analyseur un petit peu des phénomènes de migration et donc présente dans le cadre de la réouverture de ce musée municipal, présente cette exposition Frontignan, point d'interrogation, Europe, point d'interrogation. Voilà, et c'est donc une exposition qui sera présentée durant toute la saison 2018. J'ajoute que pour ce qui concerne Frontignan, eh bien, je rappellerai les dates du Festival international du roman noir qui a lieu comme chaque année au mois de fin juin. Et donc cette année, c'est le 29 et 30 juin et 1er juillet que vous pourrez rencontrer bien sûr toute la fine fleur du roman policier et du roman noir, puisque tel est le nouveau titre que l'on donne à cette littérature-là. Et pour terminer, je voudrais vous donner un petit écho du dernier livre de Régis Debray. Alors, Régis Debray, philosophe, écrivain, conseiller politique des grands, et notamment de François Mitterrand, comme chacun sait, vient de publier un livre qui s'appelle « Bilan de faillite ». Alors, c'est un ouvrage qui paraît chez Gallimard, ces jours-ci d'ailleurs. C'est un très beau livre, très, très bien écrit. Régis Debray est un des maîtres du français. Quelque chose, c'est délicieux à lire, mais c'est d'autant plus délicieux qu'il fait un bilan extrêmement négatif, caustique, de la vie qui a été la sienne et de tout ce qu'il a pu traverser. Alors le livre se présente comme une adresse à son fils, un fils de 16 ans, et à qui il voudrait éviter de qu'il refasse les mêmes erreurs que son papa, tout en disant que malheureusement, l'expérience des uns ne sert pas à l'expérience des autres. Et donc c'est un livre qui n'est pas amer, bien qu'il pourrait l'être, qui est plein d'humour, qui est le premier apparemment d'une série de deux ou trois. Et c'est assez réjouissant à lire pour les gens de la génération de Régis Debray, parce qu'il évoque tous les événements, les personnalités qui ont traversé la fin du XXe siècle et le début du XXIe. Et donc avec un jugement absolument effroyable, il règle ses comptes avec tous ces personnages qui n'ont pas, comme il le croyait, absolument pas changé la vie ni le monde. Donc c'est sur ce constat-là que Régis Debray, en ne s'évitant aucun domaine, d'ailleurs il parle aussi bien de la télévision, du sport, de la politique, de la philosophie aussi un petit peu, en ne s'épargnant donc aucun domaine, il en parle avec beaucoup d'humour et c'est un peu assez nouveau chez lui, avec une écriture absolument flamboyante. Voilà, je ne se retrouve vous conseiller de jeter un coup d'œil ou éventuellement de lire ce bilan de faillite de Régis Debray qui paraît le 3 mai, me semble-t-il, chez Gallimard. Voilà, ainsi s'achève ce numéro de Gulliver. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours, puisque la semaine prochaine est un jour férié.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.